Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, c'est dimanche, c'est 22h, c'est la causerie. On est de retour après quasiment 4 semaines d'absence. 3
Oui, mais c'est vrai qu'après 3, c'est 4.
Voilà,
mais
bon.
C'est quand même 3.
Ok. Bon, on est de retour en tout cas. Voilà. Et donc, vous venez d'entendre. Il va mourir. Et vous venez d'entendre Clara, qui est à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir, Clara. Et vous avez entendu mourir Jean-Yves.
Oui, bonsoir, Fab.
Bonsoir.
Les auditeurs et auditrices.
Et donc, voilà. Alors, donc, juste, déjà, on va commencer parce que c'est notre première émission de l'année. Donc, il paraît qu'il faut qu'on vous dise bonne année. Mais en fait, bon, plutôt bon vous que bonne année. Essayez d'être le meilleur de vous-même. C'est mieux que de chercher à changer l'année. Voilà. Non? T'es pas d'accord?
Oui, non, mais c'est un long débat. Est-ce qu'il faut souhaiter ou non la nouvelle année?
J'en sais rien.
On peut s'interroger. Et en même temps, on peut se dire, tiens, ça, on peut se le garder parce que c'est une nouvelle année qui commence. Non. Clara, elle pète déjà les plombs.
En soi, c'est 2 minutes. Hein.
C'est plus, soyez heureux et heureuses,
oui,
essayez de trouver ce qui vous comble et sans oublier ceux qui sont autour de vous ou à côté et que
exactement.
Voilà, c'est plus ça quoi.
Souhaitons-nous une grande et belle année d'empathie. C'est ça, c'est bien.
Ouais.
C'est, voilà. Bah non, c'est vrai.
Ouais, et pas ouais. Que, mais ouais.
Oui, mais voilà.
Ça peut être pas mal.
Et sinon, on est de retour. On s'excuse pour la semaine dernière parce qu'on s'est un petit peu gaufré dans l'organisation. C'est pour ça qu'on n'était pas là.
On était trop ambitieux.
On était un peu ambitieux. Puis d'un coup, on s'est rendu compte que c'était pas possible.
Ah mais non, on n'est pas très Startup Nation.
Non.
On est vraiment à la ramasse.
Voilà, je crois
c'est
que
c'est pas grave.
Je crois que des fois, on devrait se dire, ah non, là c'est non.
Ça voilà. Passera pas.
Ça passera pas. Et donc du coup, voilà. Et conneries. Et tu sais qu'on a une émission à faire.
Mais je suis là. Je suis là.
Mais donc, en tout cas, ce soir, on va redémarrer. Et comme à son habitude, la causerie va démarrer cette année avec des sujets fortement pas joyeux, mais sur un ton plutôt détendu, parce que c'est pas parce qu'on parle des saloperies du monde qu'il faut pour autant en pleurer en permanence. Et donc, du coup, Jean-Yves, toi, tu commences par sans doute l'une des pires saloperies, c'est-à-dire le fait de crever quand on va bosser.
Ouais, c'est pas faux, mais même sans crever, le travail...
C'est déjà une saloperie.
C'est déjà une saloperie. fin décembre 2023, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, autrement appelée la CNAM... Alors, vous m'excusez pour ma voix un peu nasillarde ou je ne sais pas trop, mais vous l'aurez compris, je suis un petit peu malade.
Non, t'as mangé un canard.
Fallait pas le dire. Pardon. La CNAM, pardon. Elle a publié donc son rapport annuel sur les risques professionnels en 2022. Donc oui, c'est fin décembre 2023 qu'ils ont publié sur l'année 2022. Voilà. Donc vous l'aurez peut-être compris, comme tu l'as dit, dans ce rapport, c'est dans ce rapport qu'on en apprend plus sur les accidents de travail et aussi sur les morts et les mortes au travail. Alors évidemment, silence total des politiciens sur ce sujet. Et à part quelques médias, et pas forcément les plus rebelles ou militants, c'est pas non plus très glorieux de ce côté-là, en fait. Et en même temps, ce que je me disais, c'est que c'était en pleine période de paix sociale, et appelée fête de Noël. Et en même temps, je dis ça, nous, on n'était pas là pendant 3 semaines, quoi. Donc voilà. Donc c'est aussi, je m'autoflagelle, là. Vous les entendez pas, les coups, mais je me savate bien. Que nous apprend ce rapport sur l'année 2022, hein, qui est le premier rapport portant sur une année pleine depuis la sortie du Covid et des confinements, etc. etc. hein. Et ben, une chose est sûre, la France peut encore une fois être fière d'elle, vu que cette chère patrie des droits de l'homme, avec un grand H, hein, au modèle social tellement envié, et ben, c'est le pays européen où le compte le plus de morts au travail. C'est pas génial, ça ? Non, en fait, c'est pas génial du tout, mais c'est la réalité, encore une fois. Hein. Ouais, on avait dit qu'on commençait 2024 à fond la forme. Hein. Donc, en 2022, ce sont 738 salariés qui sont morts et mortes au travail. En 2019, on en comptait 733. Alors, ces chiffres sont déjà largement hallucinants, même si certains arriveront toujours à minimiser en se disant « Oh, eh, c'est stable hein. !»
Ça fait moins de 2 par jour.
Ouais.
J'ai entendu ça, c'est pour ça que je dis ça.
Bah ouais, tu m'étonnes.
C'était le monsieur du MEDEF, il a dit « Bon, ça va, ça fait moins de 2 par
ça
jour. »
Ça va, il n'y en a que 5 de plus. 5 étalés sur une année, ça fait 0,0 mort par jour, quoi, en plus. Donc vous voyez, c'est cool. Alors oui, alors à première vue, c'est stable effectivement, mais on parle quand même là de plus de 2 morts au travail par jour.
Ouais, c'est ça.
Et justement, on peut quand même se demander comment en fait on relativise ce genre de chiffres.
Bah comme ça.
Ah oui, en étant au MEDEF ou au gouvernement. Ah ouais.
Non mais en fait,
si je suis juste pas à la bonne place dans la société, c'est ça tu veux dire.
En fait, il y a des moyens simples de relativiser, c'est déjà t'en parles pas.
Oui.
Parce que
ça est déjà vachement relativisé.
Moi je pense qu'on a passé beaucoup plus de temps à savoir si Gabriel Attal allait être premier ministre ou
est-ce
pas.
Est-ce qu'il est pas trop jeune?
Voilà, ou qu'il est pas trop jeune que la 34.
Est-ce qu'il est pas trop homosexuel?
Voilà, on s'en sait faire.
Voilà.
Par contre, donner le nombre de morts qu'il y a au travail, tu l'entends quasi jamais. Et en plus, et la deuxième façon de le minimiser, et ça je le redis, c'est la valeur travail. C'est-à-dire que si tu fais du travail une valeur cardinale, et tout ce que le travail engendre, c'est pas si grave.
Tu veux dire cette valeur portée par tous les chiquiers politiques?
Quasiment,
ah ouais.
Voilà,
ouais. C'est vrai. Donc, et même chez les plus rebelles aussi, on aime bien quand même le travail.
Donc voilà.
Hein,
mais non, et c'est du.
Non, mais t'as raison. Non, mais
permet
t'as...
de le dire, parce que moi souvent on me dit, mais comment ça se fait que ça passe à la trappe? Moi je le vois, alors, je suis syndicaliste, donc les syndicats, quand on vient avec ces chiffres-là, on voit bien qu'en face de nous, que ce soit nos amis, nos familles, ou même des politiques qu'on rencontre, et en fait on atteint la valeur travail. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, on nous dit oui, mais bon, ça arrive. Et alors que non, ça ne devrait pas arriver.
Non, c'est ça. Alors une chose importante quand même aussi à savoir, c'est que ce chiffre, donc 738 morts et mortes au travail en 2022, n'est le chiffre que des salariés du privé, rattachés au régime général. Alors autant dire, il y en a d'autres, comme par exemple dans l'agriculture, l'auto-entrepreneuriat par exemple.
Et ce qui est... la fonction publique.
Ou la fonction publique, tu fais bien de le rajouter. Le journal Politis, de son côté, a justement compilé les données des différents régimes. Et là, on atteint un chiffre assez différent. Même si on continue de s'aggraver, évidemment, ça va pas aller en diminuant. Et on atteint le chiffre de 903 morts au travail en 2022 à minima. Parce que, comme tu le disais, ce chiffre n'intègre pas la fonction publique ni ceux du régime des indépendants. Par exemple, un livreur à vélo, vous savez, la super exploitation 2.0 là, qui révolutionne tout, mais c'est fait qu'empirer tout. Et un livreur à vélo, par exemple, qui crève au travail, il n'est pas comptabilisé.
Non, parce qu'il est auto-entrepreneur.
Ah ouais, c'est bon, ça va quoi.
Il n'y a pas de patron.
C'est pas notre problème. C'est ça qu'ils doivent se dire. Alors, plus en détail, si on compare 2022 à 2019. Je le rappelle, 2019, dernière année avant 2022, à être entière. C'est-à-dire après, on a eu confinement, Covid, etc. etc. Donc, si l'on compare 2022 à 2019, dernière année donc de référence, les chiffres sont en augmentation dans presque tous les secteurs. Ça encore, youpi, bravo, vive la France.
Et surtout, ne faisons pas de parallèle avec, par exemple, les travaux pour les JO.
Voilà. Oh, tout de suite.
Surtout, ne faisons pas.
Oui, mais je veux dire, la grandeur d'un pays, ça se passe sur les morts des travailleurs. Qu'est-ce que je te dise?
Parce
que,
il me semble qu'il y a, il y a quand même pas mal de morts sur les chantiers.
Oh, il voudrait pas une révolution, celui-là. Non, mais attends. Moi, je vais appeler les instances, parce que quand même, tes propos sont un petit peu.
Je peux appeler Gabriel.
Alors, il n'y a par exemple que dans le secteur maritime où les chiffres restent quasiment équivalents. En 2019, il y avait 14 morts. En 2022, il y en avait 2013. Voilà. La hausse la plus marquante, hein, par contre, elle concerne le secteur agricole, qui, ouais, je le rappelle, ne figure pas au départ dans le rapport initial de la CNAM. Vous voyez le truc là ?
C'est aussi comme ça que tu fais en sorte qu'on n'en parle
mais
pas.
Oui, non, non,
tu
mais
comptes
c'est...
pas.
Je trouve que vraiment ce qu'a fait Politis, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est hyper bien parce que justement, ça invisibilise tellement plus encore les morts au travail,
bien
de
sûr,
ne pas compter tous les morts au travail. Il y a un truc qui est complètement fou. Alors, pardon. Pardon, je meurs et je reviens. Alors, alors qu'en 2019, hein, il y a eu 114 morts au travail, alors salariés et non salariés confondus, c'est-à-dire chef d'exploitation, conjoint de chef d'exploitation, etc. Ce chiffre, il s'élève en 2022 à 152 personnes mortes, ce qui est quand même une augmentation de 33%.
Mmh.
C'est, non, ça doit être sûrement une variable...
d'ajustement.
Oui, et puis assez... insignifiante, n'est-ce pas, 33%. Alors, dans le régime général, hein, les trois secteurs qui entraînent le plus de décès, eux, ne changent pas. Le trio gagnant, c'est toujours le BTP, les transports et les activités de service comme l'intérim, la santé, l'aide et le soin et le nettoyage. Et justement, Politis donne aussi quelques exemples de, bah, de ces salariés dont on ne parle pas, hein. Par exemple dans le ménage, c'est, je crois que c'est un gars qui est mort dans les sous-sols du Sénat parce qu'il faisait le ménage avec une machine qui n'était pas formée et il est mort. C'est cool, hein. Voilà. Alors une autre donnée aussi qui interpelle pas mal, c'est celle des morts au travail ayant moins de 25 ans. Entre 2019 et 2022, le chiffre il a augmenté de 29% avec 36 jeunes morts au travail en 2022 au sein du régime général. Encore une fois, hein. Donc si vous retenez, on ne compte pas tous les autres, hein. Donc quand je vous parlais, hein, avant du relativisme de certains et de certaines au sujet de ces chiffres, j'aimerais quand même vite faire rappeler ici les propos de celui qui occupait jusqu'à peu le poste de sinistre du travail à l'Assemblée nationale. Il disait en février 2023, lors du débat sur la réforme des retraites, ah, pour le citer, c'est Olivier Dussopt. Hein. Alors lui, il disait « Sur la question des morts au travail, je vais donner les chiffres tels qu'ils ressortent des études de la Direction Générale du Travail. Depuis 15 ans, de manière continue, nous connaissons en moyenne dans notre pays 650 décès par an au travail. » Il ajoute « C'est un chiffre qui est redoutablement stable depuis 15 ans, qui n'a pas bougé depuis 2017, contrairement à ce que j'ai entendu. » Oui, on peut se dire que c'est tout simplement un gerbé quand même, hein, parce que ce redoutablement...
Clairement.
Il y a vraiment un côté, fermez vos gueules, quoi, ça va. Et le mec, il arrive quand même à se satisfaire de 650 personnes qui crèvent au travail. Enfin, allô, il y a quelqu'un ? Alors...
Ben non, il y a personne.
Oui,
je rassure. Il y a une enveloppe, mais après, dedans, il n'y a pas grand-chose.
Alors pourtant, hein, il suffit de s'intéresser un petit peu au sujet pour savoir que, bah, que les accidents du travail sont bien souvent l'aboutissement de facteurs accidentogènes connus, hein, comme la sous-traitance en cascade, le recours massif à l'intérim. Le problème ne sont pas les intérims. Le problème, c'est la non-formation.
La non-formation
des personnes qui intègrent un poste.
Ou, hein, le fait qu'on ne leur donne pas les outils nécessaires de protection.
Justement, il y a aussi le manque de formation, il y a les cadences élevées, il y a la précarisation des statuts, les conditions de travail extrêmes, etc. Bah, autant de raisons, hein, qui accroissent, bah, les risques de mort au travail. Sans oublier, évidemment, aussi, hein, le travail des gouvernants, qui consiste quand même à tuer le code du travail, l'inspection du travail, la médecine du travail. Bref, en fait, hein, ils travaillent à favoriser l'exploitation en minimisant les droits et les protections de nous, les travailleurs et les travailleuses.
Bah, un des exemples les plus parlants, pardon, j'ai fait un peu mon vieux compte syndicaliste, que je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils vont dire que je suis un passéiste et un boomer, tout ça, mais voilà. Alors, juste, je vais rappeler quand même qu'en 1890, étaient nés les CHS, c'est les comités d'hygiène et de sécurité, qui ont été ensuite, par la lutte, hein, parce que c'était des luttes syndicales, transformés en CHSC, et ensuite en CHSCT après 68. Et en fait, il faut savoir que les CHSCT avaient un pouvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient la possibilité, quand ils estimaient que les salariés étaient mis en danger, de faire ce qu'on appelait un droit de retrait collectif, c'est-à-dire qu'ils mettaient fin à une activité en disant, bah là, non, les gens sont pas formés, là, il n'y a pas les outils de protection suffisants, tout ça. Donc en fait, le CHSCT entre 68 et 2017, ça a fait chier le patronat, mais alors de façon hallucinante, et notamment dans le BTP. Parce que dans le BTP, ça a permis, et ça c'est une réalité, de baisser le nombre de blessés et de décès. Parce qu'en fait, des élus, en fait, de salariés, pouvaient venir contester la façon dont faisaient travailler les gens. Et en 2017, l'une des premières choses qu'a fait Emmanuel Macron, par les ordonnances Macron, hein, ça s'est appelé comme ça, c'est de détruire les CHSCT. Et à l'époque, moi je me souviens, tout le monde nous disait « Ah, oh, mais non, mais ça va rien changer, ils ont fait une CSSCT à la place, qui est une commission, ce qui n'a rien à voir avec un comité. Ouais. » Les gens n'ont pas fait la différence entre comité et commission. Un comité, c'est un pouvoir législatif dans l'entreprise. Une commission, c'est un pouvoir de discussion. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc en fait, en réalité, on est arrivé à une situation où aujourd'hui, eh ben, les CSSCT n'ont quasi plus de moyens par rapport à ce qu'avaient les CHSCT. Elles n'ont quasiment pas le droit de faire des droits de retrait collectifs. Elles n'ont qu'un avis consultatif de critique et non plus un avis obligatoire de critique. Donc en fait, le nombre de morts au travail a augmenté significativement, et vraiment tu l'as souligné, et c'est vraiment flagrant, depuis en fait la mort des CHSCT. Donc en fait, dès qu'on enlève le peu de contre-pouvoir qu'il y avait dans l'entreprise à travers la CHSCT, bah en fait, on a augmenté les risques. Donc on sait que le nombre de blessés au travail augmente,
oui,
que
le nombre de morts augmente, en fait.
Et c'est les salariés qui en payent
par
le prix.
Par leur santé, leur vie.
Et ça, en fait, quand il y a eu les ordonnances Macron, moi je voyais très peu de gens vouloir défendre les CHSCT. On a été quelques-uns à dire il faut vraiment pas que ça disparaisse. Et je parle quelques-uns, on n'était pas 10. Hein, mais dans l'opinion publique, c'était pas compris. Mmh. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il y a plus d'outils réellement de stop. Alors il y en existe encore quelques-uns, mais beaucoup plus complexes à mettre en place. Et donc en fait, on voit ce que ça donne, quoi. Et on voit que Macron, il roule pour comme les autres avant lui, hein. Pour
oui, le patronat. Dire, parce que je crois que l'inspection du travail est en mauvaise situation bien avant.
L'inspection du travail, c'est la destruction. Elle date de Sarkozy, donc ça date un peu quand même, voilà.
Donc c'est tout lié en fait.
Oui, en fait, c'est une vengeance patronale. Moi, je l'appelle comme ça. Alors, ça peut choquer hein, quand je dis ça, mais c'est en fait en France, on a gagné des acquis par la lutte entre on va dire 1890 et 1945. Même si 68, il y a eu des choses, mais c'était voilà. Et le patronat, en fait, depuis, il détricote petit à petit, parce que lui, il a le temps. Mais sauf que les salariés payent le prix systématiquement de toutes les détricotages.
Oui, et puis ils détricotent d'autant plus facilement. Que,
que la lutte elle a un peu baissé aujourd'hui.
Elle a baissé en fait, même si il y a
pour diverses raisons,
etc. Mais oui, c'est tout le problème. Quoi. Enfin, oui, ils profitent d'un instant de sommeil ou de répit ou de je sais pas quoi ou c'est d'endormissement ça. Du mouvement, on va dire, des travailleurs et des travailleuses quoi, et des chômeurs et tout ça. Hein. De toute façon, je vous oblige pas à être au travail pour exister. bref, hein, comme tu l'auras dit, les gouvernants en fait sont toujours là pour le bénéfice du patronat, des possédants, des exploiteurs. Alors, ça fait peut-être caricatural ou très politisé comme point de vue, mais croyez-moi que quand on
est une émission politisée,
oui, c'est ce que non, mais ce que j'allais dire. Et puis quand des gouvernants et des patrons se satisfont de la destruction des CHSCT, etc., c'est politique.
Mais, évidemment.
Alors non, mais oui, évidemment, mais sauf que souvent quand tu parles avec les gens, ils vont dire ouais, mais c'est politique, etc. Mais vous croyez que quand le patronat il veut vous enlever des droits ou nous enlever des droits, c'est pas politique
bien
en
sûr,
fait.
Ça l'est bien, oui.
Tout est politique, donc de fait. Bah ouais, vouloir reprendre des droits sur le patronat qui essaie de nous en manger, ben c'est politique aussi, et c'est pas un vilain mot, politique, ok. Politique, c'est pas, la LFI ou je sais pas quoi, c'est la politique, c'est la vie de la cité, quoi, c'est ce qu'on en fait de nos vies, quoi. Bref, pardon, je m'énerve tout seul, mais voilà.
Ouais, ça fait du bien.
Mais oui, ça me fait vraiment beaucoup de bien.
Mais là où je te rejoins, et où je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on minimise toujours, c'est très drôle de voir que quand un ministre dit quelque chose sur le travail, on part du principe que c'est une réforme et qu'elle est nécessaire. Oui. Par contre, si vous dites,
il n'y a pas d'idéologie.
Il n'y aurait pas d'idéologie.
Oui, il n'y aurait pas.
Alors c'est que bien. Quand vous dites, en fait, faudrait au contraire mettre plutôt plus de règles, faire plus attention. Ou, mais là, toi, tu veux le communisme et le stalinisme et tout. Et non, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, le travail, c'est un lieu où on passe 8 à 9 heures par jour en moyenne. On n'a pas à y risquer nos vies et on n'a pas à y laisser notre vie. À s'user. En fait, une fois qu'on.
Et pas plus non plus à y crever.
Laisser nos vies, c'est ce que je veux dire, c'est mourir ou y user nos vies, en fait, voilà. Et moi, je disais, oui, c'est politique ce que je suis en train de dire. Mais au même titre que quand on arrive et qu'on vous dit, c'est normal qu'on puisse travailler 12 heures et donc on va faire une réforme qui permet de travailler 12 heures. C'est tout autant politique, sauf que c'est l'autre point de vue. C'est l'idée que vous êtes corvéable à merci, vous pouvez mourir au travail.
Ouais, mais juste que face à toi, en fait, les gens qui seront du point de vue inverse, ils vont se sentir fiers de pouvoir t'écraser. Alors que finalement, face à un gouvernant, ils savent qu'ils vont se faire écraser en fait s'ils ouvrent leur gueule. Donc c'est aussi une forme de petite lâcheté hein, des petits humains. Pas de tous, de certains petits humains. Alors tout ça, cette mobilisation des gouvernants, elle n'a pas lieu qu'en France. Hein, parce que par exemple, au niveau européen, il faut quand même savoir que la France, eh ben, elle s'est opposée à la mise en place d'un statut plus protecteur pour les livreurs. Ah ouais ? Ah, c'est politique peut-être aussi ça. Ah ouais, c'est politique aussi. Enfin, bref, il n'y a aucune fatalité, hein, que ça soit clair, dans ces morts et ces mortes au travail. Ces morts ne sont que le résultat des politiques menées et aussi, quand même, peut-être, et même pas peut-être, mais sûrement aussi, du silence d'une partie des salariés. Mais alors, je suis conscient, je sais le prix à payer aussi lorsqu'on ouvre sa gueule au boulot, lorsqu'on dénonce des conditions de travail, et je peux comprendre ce silence, parce que selon la situation dans laquelle on est en tant que salarié, si on est isolé, enfin si on est seul, si on a un ou des gosses à charge, etc., eh ben c'est risqué d'ouvrir sa gueule des fois.
Mais d'ailleurs, tu te souviens, les métiers où on meurt le plus, c'est les métiers où il y a le plus de précarité.
Oui.
Donc en fait, en réalité, il y a un lien de causalité évident. En fait.
Oui, c'est ça. Mais croyez-moi, enfin, ne pas se laisser marcher sur la gueule par son patron, c'est aussi s'autoriser un minimum de dignité. Bien que j'aime pas vraiment beaucoup ce mot, mais je trouve que quand même, ça nous laisse un minimum de dignité, de fierté.
D'existence.
Hein, ouais, d'existence, pour ne pas finir complètement écrasé quand même par le patronat. Hein, et aussi, quand même, ce qui est assez jouissif, si vous risquez un petit peu de temps en temps à l'ouvrir, eh ben, c'est que ça fait peur un petit peu quand même. Hein. Alors, si vous êtes seul, évidemment, ça fait un peu peur, mais si vous êtes plusieurs, bah, ça fait peut-être encore un peu plus peur à votre patron. Et quand ils ont un peu peur, bah, ils sont des fois un petit peu plus vigilants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voudront pas vous virer, mais ils s'y reprendront à plusieurs fois avant de se dire là on va attaquer, hein. Et sinon aussi autre chose que vous pouvez faire si vous avez envie d'ouvrir vos gueules et tout ça, bah c'est syndiquer par exemple. Voilà. Alors je suis pas syndiqué, hein, mais je sais que j'ai déjà fait appel à des syndicats ou autres, et je ne cracherai jamais sur l'outil que c'est de défense et de pouvoir se défendre quoi. Parce que on est seul face à des machines. Hein. Le patronat c'est une machine et on est souvent pas grand chose tout seul parce qu'on connaît pas forcément nos droits, etc. Donc c'est aussi connaître ses droits, le minimum de ses droits.
Pas se sentir seul.
Et pas se sentir seul.
Moi je le dis souvent. Moi je suis syndicaliste, syndiqué. J'aime bien dire le mot syndicaliste, ça fait peur aux gens. Donc j'aime bien l'idée. Non mais voilà, et je le dis, c'est en fait la première chose qu'on trouve dans un syndicat, c'est de l'entraide. Mmh. Et en fait l'entraide, c'est le moment où en fait on arrive à, quel que soit le syndicat, je suis pas en train de faire de la pub pour qui que ce soit, mais c'est en fait le moment où déjà on se sent moins seul, et quand on se sent moins seul, on se sent plus fort. Mmh. Et en fait c'est là en fait qu'on commence à pouvoir relever la tête et pouvoir admettre que sa situation n'est pas normale, ou que la situation qu'on constate dans son secteur d'activité n'est pas normal, et c'est important. Mmh. Moi j'ai en tête la lutte des femmes de ménage à Paris.
Oui.
Des femmes de ménage de l'hôtellerie à Paris, qui a duré 2 ans quand même, on l'oublie. Oui. Mais elle a duré, c'était une lutte très très longue, et en fait elles ont relevé la tête quand le jour elles ont compris en discutant ensemble qu'elles vivaient toutes la même chose. Oui. même d'un hôtel à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste propre à tel groupe ou tel truc.
Non, c'est une politique générale menée par...
Et elles ont fait avancer réellement les conditions de travail dans l'hôtellerie, même si elles sont pas encore fabuleuses et tout, c'est pas je pense ce que je veux dire, mais elles ont fait avancer des choses, et elles ont réussi à gagner des choses justement en s'unifiant.
S'unissant,
c'est mieux. Oui, bah, je suis fatigué. En s'unissant, et c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est que, et on gagne pas à tous les coups, mais moi, comme je dis toujours, pour 10 défaites, il y a une belle victoire, et quand on a une belle victoire, on oublie les 10 défaites. Oui. C'est un peu l'idée.
Jolie formule. Et ben voilà, hein, alors si de mort il doit y avoir, je pouvais pas finir comme ça, hein. Bah, ce que je souhaite, bah, que ce soit celle de l'exploitation elle-même, ça pourrait être pas mal, non? Mmh. Hein, et de tous celles et ceux qui la favorisent, l'exploitation, hein, propriétaire, patron, tout ça, vous voyez.
Ouais, attention, tu vas nous chanter une chanson dans 2 minutes.
Non, pour ton propriétaire, je la ferai pas, mais je vous invite à écouter tout ça. Enfin bref, mais ça aussi, en fait, hein, tout ça, ça changera pas tant qu'on se taira, et tant qu'on s'organisera pas un peu, tant qu'on ouvrira... Ouais, c'est ça, ne serait-ce que ouvrir sa gueule, en fait. Vous êtes pas des tapis, vous avez le droit de ne pas vouloir être un tapis, quoi. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est un sujet que j'aime bien suivre tous les ans, et donc je pense que je vous en reparlerai, on en a déjà parlé. T'allais dire un truc?
J'allais dire une phrase de Joe Hill, voilà, qui était un syndicaliste américain, ouais, et qui disait « Ne râle pas, organise-toi ».
Organise-toi, tout à fait. Et c'est un slogan des... C'est pas des syndicalistes, IWW, syndicaliste américain, qui disait ça aussi, qui avait repris ça. Voilà, j'espère que vous aurez un peu compris mon sujet, malgré mon nez complètement bouché. Je propose qu'on passe à la ZIC.
Merci Daffy Duck.
Que la biche soit en moi avec le vol de chaque flèche chasseresse. Dans les vergers des bois, telle la chasseresse que je me considère, je me sens inspirée d'un portrait sans comparaison. C'est la source de silence et de douceur. Si j'ai toujours les yeux de biche, je me montrerai lucide et charitable à bramer au clair de lune dans cette lisière paisible. Sans que la nuit soit toujours blanche, quel qu'en soit le sourire rayonnant, je laisse sortir la biche qui est en moi. Que la biche soit en moi.
Soit en moi.
Oui. Que la biche soit en vous aussi, les amis. Alors, on vient de s'écouter un formidable titre. Le titre, c'est donc Que la biche soit en moi. Alors, c'est aussi bon pour toi. Pour toi, pour toi, pour nous, pour tout le monde. Enfin bref, et c'est un titre de... Pardon, c'était pour faire... Comment il s'appelle ?
Grégoire.
C'est exactement ça.
On ne cite pas de
catholique intégriste. Ah oh, bah écoute, tu sais pas ce qu'est la communion. Alors donc c'était La biche, que la biche soit en moi. Et c'était un formidable titre de Rebecca Warrior, ancienne membre de Sexy Sushi, et de Claire Ottaway, membre du formidable groupe Astéréo Tipeee.
Ouais.
Et ben voilà, on va passer à la suite, qui est d'un tout autre registre. On va parler, en tout cas Fab va nous parler de monstres sacrés et de sacrées ordures finalement.
Ben ouais, c'est ça, parce qu'il y a quand même une drôle de notion dans l'air en ce moment, et moi j'ai toujours été étonné par des notions comme celle de monstres sacrés du cinéma ou du théâtre, hein, ou autre, ou celle de maître à penser, qui pullule pourtant dans la bouche de bien des gens. mais aussi des articles de presse ou autres. Hein. On retrouve souvent cette appellation, ou ces appellations, qui est quand même un peu étrange. T'as froid ? Allume le chauffage.
Je vais faire ça discrètement.
Donc cette classification, qui ne tient souvent pas compte d'autre chose que du fait d'avoir, en gros, un bon client, ne tient sur rien et n'apporte finalement rien, si ce n'est une hiérarchisation totalement inutile dans les arts. Voilà. On devient un monstre sacré hein, quand on est donc vu comme incontournable. Parce que c'est ça, en fait, la notion de monstre sacré. Hein. Il n'y a pas vraiment de réflexion sur comment et qui vous rend incontournable, hein, mais d'un coup, il y en a un ou deux qui vont décréter que vous êtes un monstre sacré, puis ça fait tache d'huile. On ne sait pas trop pourquoi. Sur le fait que souvent, hein, c'est le milieu lui-même qui vous met dans cette case. Hein, car vous servez bien le milieu. C'est, en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu un renvoi d'ascenseur. Voilà. Sur le fait que souvent, d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est donné un petit peu à l'emporte-pièce. C'est un petit peu, voilà. Par exemple, PPDA était un monstre sacré de l'information. Depardieu, oui, je l'ai lu. Hein. Depardieu, du cinéma. Etc., etc. En fait, c'est finalement, quand on y regarde bien, des produits d'appel qui servent la soupe, ces personnes-là, plus que vraiment des grands journalistes ou des grands comédiens. Le problème, c'est d'ailleurs souvent le problème, c'est surtout la notion de sacré qui est après le monstre. Voilà. Parce que le sacré, c'est censé être totalement inattaquable. Cela, ça sous-entend donc que quoi que fasse le monstre sacré, tout doit lui être pardonné, car il est au-dessus de nous, autres pauvres simples mortels. Mmh. Bah oui. Et c'est là que le bât blesse. Ce n'est pas que ces personnes sont sacrées ou autres, non. C'est qu'on a inventé un mot pour ne pas dire qu'elles ont une position de pouvoir, en réalité. Parce que c'est ça qui est derrière. Qu'elles sont, de fait, protégées, parce que vues comme détentrices, non pas d'un talent, mais d'un pouvoir, celui de faire et défaire des carrières, par exemple. C'est bien la peur qui les maintient où elles se trouvent, pas le talent, concrètement.
Oui, et aussi la thune qui ramène.
Oui, bien sûr. Bah, le pouvoir est souvent lié à l'argent. Hein, dans une société capitaliste, c'est évident. Mais donc, voilà. Mais donc, du coup, effectivement, la thune qui ramène, ça joue aussi. Si on prend, par exemple, le cas de Depardieu, hein, qui est très médiatisé en ce moment, et à juste titre, hein, ces dernières semaines, quel grand film a-t-il fait, finalement, ces 20 dernières années ? Aucun, en fait. Il n'a fait qu'aller cabotiner dans des seconds rôles ou des rôles principaux où il faisait du Depardieu. Si on suit la logique que le fait d'être un monstre sacré reposerait sur le talent, bah, il aurait dû redescendre et ne plus être vu ainsi. Bah oui. Mais il est clair que c'est pas le talent. Hein. Parce que voilà. Donc une fois installé, il ne bouge plus les monstres sacrés car ils sont imbriqués dans le milieu. Un milieu qui n'ose jamais démonter ses idoles car elle vit de l'existence de celle-ci. C'est une sorte de truc cercle vicieux. Quoi.
Oui, c'est un titre à vie quasiment. En fait, c'est un titre à vie.
Ah oui, titre à vie. Hein. En fait, c'est une forme d'auto-alimentation du milieu. C'est-à-dire, on crée des soi-disant acteurs au-dessus des autres, comédiens au-dessus des autres, journalistes au-dessus des autres, alors qu'en fait, non. Enfin, je veux dire, voilà quoi.
C'est marrant, c'est rarement des monstres féminins.
Ah oui, ça en plus, parce que patriarcat, là, quand même.
Ah oui, ok.
Pas déconner. Mais heureusement, la parole se libère. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est nouveau, hein, c'est que l'on peut vraiment apprécier, c'est que les temps changent et que la parole se libère. Bien entendu, les victimes ont toujours parlé, hein. On va pas non plus se mentir. Et je vous renverrai d'ailleurs, je le fais rarement, mais à une excellente émission, sur France 5, hein, c'est ce soir, sur justement la notion, de MeToo, post-MeToo dans le monde du cinéma, et où une historienne rappelait que les femmes, dès qu'elles ont pu réaliser, dès 1928, hein, la première femme qui réalise un film, elle réalise un film sur son viol. Donc, c'est pas nouveau hein, qu'elle parle. Hein, voilà. Mais ce qui est nouveau, c'est que on commence à les entendre et à les croire. C'est un peu ça qui fait changer. Alors, toujours, je te vois autodiner la tête,
mais
ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus prégnant aujourd'hui.
Oui, on peut pas nier de choses.
Donc, aujourd'hui, il y a une masse de personnes un peu plus conséquentes que précédemment, surtout dans la jeunesse, et il faut le souligner, qui les entendent, les croient et les soutiennent. C'est ça qui va changer la donne. Face au pouvoir, c'est toujours la masse hein, qui finit par faire vaciller le dit pouvoir. Et c'est bien finalement une forme de révolution des esprits qui s'opère en ce moment. Voilà. Alors, bien entendu, il y a des excès, hein, comme dans tout changement de paradigme. Mais ils ont bien peu de choses face à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ça aussi, hein, soulever systématiquement les quelques micros excès qui peuvent exister pour annuler tout ce qui se passe, c'est un peu facile.
Voilà. C'est une technique aussi très utilisée partout et pas que ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on va prendre 2-3 excès pour généraliser à tout le monde.
C'est ça.
Ou en tout cas faire sous-entendre ou faire croire que l'excès, C'est tout c'est le mouvement, norme, en fait.
Alors
quoi.
Que pas du tout.
Alors que non.
Pour la première fois, hein, depuis des années, des monstres sacrés, justement, et autres maîtres à penser ont été déboulonnés de leur véritable nature, mise à jour. Ou mise au jour, je ne sais plus comment on dit. Donc terminé, hein, quand même, les « oui, mais c'est Gérard ». Et autre, mais vu ce qu'il a écrit, ce n'est quand même pas si grave. Bah non, maintenant, quand ces phrases sortent, il y a des gens qui répondent, bah en fait, si. Et ça a beau être Gérard, je m'en fous. C'est, voilà. Et ça, c'est intéressant, parce qu'avant, ces phrases, elles se suffisaient à elles-mêmes pour enlever toute notion de critique. C'est-à-dire que, ah ouais, mais c'est Gérard. Ah oui, bah voilà, voilà. Bah si, c'est Gérard. Alors. La notion protectrice de star, de superstar et autres semble ne plus fonctionner. Et c'est pas rien en fait, hein, quelque part. Il suffit d'ailleurs de voir les réactionnaires de tout poil tenter d'éteindre l'incendie pour voir que cette libération vise juste et profondément juste, justement. C'est ça qui moi m'intéresse et c'est plutôt positif. Les monstres sacrés, ou plutôt ces sacrées ordures, dans leur cas, hein, dans le cas de celles qui ont dépassé des bornes inadmissibles, sont là face à nous. Et c'est pas toujours confortable, hein, finalement, de se rendre compte que quelqu'un, qu'on a pu aimer, ou qu'on a pu apprécier, dont on a pu aimer la musique, le talent, voilà, et ben, est en fait une ordure. Voilà. Ça nous secoue, hein, parce que, parfois, ces idoles d'un moment de notre vie, représentent quelque chose dans notre vie, mais c'est comme ça qu'on est mis face à nos probables aveuglements, par moments aussi. Mais qu'est-ce que ce petit mal-être, finalement, parce que c'est transitoire, hein, avec ce petit mal-être par rapport à ce qu'ont vécu les victimes de viols, d'humiliations, de violences, d'attouchements et autres violences physiques qui sortent aujourd'hui dans la presse et ailleurs. C'est pas grand-chose, hein, que ce mal-être passager, hein, finalement, par rapport à tout ça. Mais c'est là que tout se joue. Rester neutre serait non seulement une erreur, mais en prime, un déni tellement total que cela n'aura pour fond que de redonner du pouvoir, finalement, à ceux qui en abusent. Et c'est là, en fait, qu'on a un rôle vraiment tous à jouer. On peut ne pas vouloir condamner d'emblée. On peut se dire que la justice doit faire son travail, très bien, pourquoi pas. Je ne vais pas rentrer ici dans un débat sur la justice bourgeoise, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans l'émission, mais voilà. Mais, et c'est important, on ne peut pas faire comme si les victimes n'avaient pas parlé. Comme si elle n'avait rien dit, comme si le monde avait continué de tourner sans rien de nouveau. C'est là en fait qu'il y a un vrai problème. C'est là qu'on a un réel problème de déni et de reviolence, de violence nouvelle sur des personnes qui ont déjà subi des violences. Voilà. Vous pouvez dire il faut que la justice fasse son travail, mais ça ne veut pas dire que vous devez nier le fait que des femmes ou des hommes, d'ailleurs, ça peut arriver parfois, ont parlé. Sinon, vous ne faites que conforter le position de pouvoir de la personne que vous protégez. Et puis disons-le, tout ne relève pas de la justice non plus, parce que ça aussi je commence à en avoir un peu marre moi personnellement, qu'on me dise oui mais laissons la justice faire, mais en fait tout ne relève pas de la justice, certaines choses reposent sur l'éthique, sur ce qu'on est au monde et de comment on accepte que les autres le soient. Réduire le pouvoir de ces monstres sacrés à ce qui relève de la justice serait leur laisser bien des capacités de nuisance et de violence. Parce que finalement, il y a des tas de choses qui ne relèvent pas de la justice. Hein. Par exemple, je suis désolé de le citer, sexualiser une enfant verbalement ne relève pas de la justice. Et c'est purement dégueulasse pourtant. Mais ça ne relève en aucun moment de la justice. Oui. Ça peut vous choquer, mais c'est le cas. Et personnellement, je ne serais pas pour d'ailleurs que tout relève de la justice, parce que ce serait terrible une société où tout relevait de la justice. Oui. Mais c'est là qu'en fait les limites éthiques, ou morales, appelez ça comme vous voulez, ont un rôle. C'est-à-dire que c'est là que votre positionnement personnel, mon positionnement, le positionnement de chacun, a un poids dans la société. Exprimer par exemple l'idée aussi qu'une femme au-delà de 50 ans n'est plus bonne à rien sexuellement ou affectivement, ça n'est pas pénalement répréhensible, mais ça pue quand même bien la haine. Oui. Donc en fait, à un moment donné, on a aussi le droit de dire la personne qui dit ça, elle mérite que du mépris. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas interdit en fait à un moment donné de se dire oui, alors en l'occurrence là, c'était Yann Moix, hein. Mais on a le droit de dire moi du coup si j'étais vous j'achèterais plus un livre de Yann Moix, hein. Parce que ce mec est une ordure,
voilà. Surtout s'il y a plus de 50 ans.
Oui, surtout s'il y a plus de 50 ans et que vous êtes une femme. Voilà, c'est ça que certaines personnes disent attendre, de la nuance. Mais en fait c'est bien, laissez-moi vous dire que la nuance c'est ça aussi. C'est la possibilité, la capacité de se positionner, de ne pas tout attendre de la justice, d'avoir un avis personnel, de pouvoir dire, moi personnellement, je n'irai plus voir les films d'un tel ou d'un tel, je n'écouterai plus la musique d'un tel ou d'un tel, je ne lirai plus. Ce qui ne veut pas dire que vous demandez à ce qu'il soit interdit, ce qui veut dire que vous, individuellement, vous n'avez plus envie d'être en contact avec tel acteur, tel auteur, tel musicien, mais c'est votre droit. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on essaye de retirer le droit, le droit absolu de quelqu'un de dire « moi j'ai pas envie d'écouter telle personne ou de lire telle personne ». Alors le problème, c'est que ces gens de l'opposition de pouvoir, ils savent que quand on est plein à se le dire, bah, ils perdent du pouvoir, parce que d'un seul coup, ils rapportent moins de thunes. On revient à ce que disais. Mais c'est notre droit le plus absolu. Et il n'y a pas à être jugé parce qu'on estime qu'on n'a plus envie de lire un tel parce que bah, il a dit une énormité dans une émission ou dans un livre ou dans un truc et qu'on n'a pas envie d'aller remettre encore de l'argent ou le redonner de l'aura à cette personne. Quand on voit d'ailleurs un ami se comporter mal, parler mal, on lui dit en général. Quand c'est un ami, on lui dit bah, sérieux là. Pas toujours.
On devrait.
On devrait. Voilà. Mais ce serait quand même bien qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'on puisse dire quand même, non, mais là, quand même, tu peux pas dire ça. Oui, c'est un peu ça, quoi. Ben, finalement, dans le cas, quand on se tait, on cautionne, finalement. Mmh. C'est un peu ça. Mais c'est aussi le cas, en fait, pour les monstres sacrés. Quand on dit, non, moi, j'ai pas envie d'en parler. Ben, en fait, on cautionne. Je suis désolé de vous le dire. Et c'est ça qui renforce, finalement, les positions les plus malsaines. Alors, est-ce que c'est la fin des monstres? C'est ça la vraie question. Dans une chronique de l'émission 224 de La Causerie, celle du 22 octobre 2017, Jean-Yves, tu nous avais parlé de la notion de monstre, de ce mot qui fait que non, les pires actes ne sont pas le fait des monstres, mais des humains et d'humains. Et que la noirceur fait aussi partie de l'humain, qu'il n'est donc pas utile de déshumaniser celui ou celle qui commet le pire. Eh bien cela, ça marche dans l'autre sens aussi, finalement. Il faut tuer la notion de monstre sacré, qu'il soit d'horreur, de monstre tout court, qu'il soit d'horreur ou sacré, voilà. Car elle ne permet pas d'avancer, de changer en profondeur la société. Elle n'est en fait qu'un pouvoir que l'on donne à des humains, qui ne sont que des humains, et qui doivent être vus comme tels, pour que nous avancions et que nous acceptions les bons et les mauvais côtés des gens. Mais surtout, que nous puissions, comme c'est le cas en ce moment, fixer finalement des limites claires et collectives de l'acceptable ou non. Alors oui, les sociétés changent, je sais, j'entends plein de gens que ça dérange que la société change. Pardon, ça va aller, vous inquiétez pas, vous allez vous y faire. Mais c'est bien, c'est positif.
Oui, surtout, c'est une histoire d'humanité.
On progresse,
oui.
C'est un peu mieux quand même. Voilà. Alors aucun changement ne se produit sans une réaction contre celui-ci. Ça on le sait, tout changement entraîne une réaction. Oula, pardon. À nous de tenir pour que le retour de balancier soit le plus faible possible et qu'on puisse renvoyer le balancier dans le bon sens au final. En fait, c'est ça qui va se jouer aujourd'hui.
Oui.
Et moi, je vous le dis très sincèrement et très gentiment à tous ceux qui nous écoutent. Parfois, on est même moi, je suis mal à l'aise face à certaines choses. Parce que, j'ai 47 ans cette année, je fais partie des gens qui ont connu deux siècles et un millénaire de passage, donc ça fait bizarre comme ça, mais donc oui, je suis un peu un vieux con aux yeux de plein de jeunes aujourd'hui qui me voient comme quelqu'un qui a pu accepter à une époque qu'à la télévision on tient des propos racistes, qui des fois nous interroge avec virulence, en disant mais comment vous avez pu laisser faire ça? Eh ben ils ont pas tort de nous poser la question. Ça peut nous emmerder parce que oui, ça nous renvoie à nos petites lâchetés, à nos petits oublis, à notre manque de vigilance. Mais c'est positif quand justement la génération qui vient interroge celle qui est avant elle pour lui dire tu crois pas que t'es un peu merdé si on évitait de refaire la même chose? Alors ça nous met pas toujours à l'aise. Parfois certains réagissent un peu violemment ou virulemment, mais c'est pas la peine. C'est juste le monde qui évolue. Essayons de faire en sorte qu'il évolue dans le bon sens, qu'on aille tous vers du mieux. Et vous allez voir, ça va être vachement mieux pour respirer.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Mais je me disais, en fait, sur cette incapacité des fois qu'on a de voir la monstruosité de nos idoles, en fait, je pense que ça renvoie toujours justement à cette notion de monstre, en fait. C'est-à-dire que le monstre sera créé. Alors, on se rend bien compte qu'il est humain, et c'est son talent qui fait que c'est
sur un piédestal.
Sacré. Mais quand d'un coup c'est un monstre négativement, bah d'un coup ça nous renvoie à merde, je l'avais pas vu. Mais oui, mais parce qu'on revient à cette notion, justement, tu disais que j'en avais parlé, un monstre ça ne se voit pas.
Mais
ça
non,
n'est pas marqué sur sa gueule en fait. Et là ça nous demande aussi de détruire. C'est comment dire, présupposé ou je sais pas quoi, que je sais pas, on verrait sur la gueule de quelqu'un que c'est un agresseur. En fait, parce que sinon ce serait vachement plus simple en fait.
Ouais,
et qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a aussi ce côté là, c'est merde, j'ai pas été capable de le voir. Mais c'est aussi c'est aussi à quelque part la force et la terreur des agresseurs et autres.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est que c'est monsieur et monsieur ouais. Tout le monde en fait. C'est il y a pas de gueule pour ça, il y a pas de voilà. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est ça nous renvoie à notre incapacité d'avoir vu.
Ouais, mais ça nous oblige du coup aussi à pouvoir collectivement oui. Fixer des limites.
Ah, et oui, et à s'interroger plus profondément.
Et qui permettent de réduire oui. L'espace qu'on laisse à ces ouais. Personnes qui abusent de leur position. Et, c'est clairement ça, en fait, qui est aujourd'hui en jeu. Et oui, alors des fois, moi, j'entends des gens qui disent oui, on peut plus rien dire, blablabla. Mais c'est totalement faux. Et surtout, ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais pu dire tout ce qu'on voulait. Et puis, ça se saurait, sinon il n'y aurait jamais eu de
Dire quoi, en fait.
Voilà, c'est là que je voulais revenir.
Pour des appels à la haine. Est-ce que t'as envie qu'on ait le droit de faire des appels à la haine? Bah, je sais pas, en fait, je crois pas que ce soit super.
Mais
cool,
c'est ça que j'allais
quoi.
Dire. Est-ce que finalement, moi qui suis de la communauté LGBT, j'ai pas un très grand regret des années 90,
oui.
Hein, où une blague sur deux des comiques reposait sur de l'homophobie très ouverte et très assumée. Hein, voilà. Bah, elle me manque pas cette période-là, moi personnellement. Donc, pardon, hein, si ça vous manque à vous, peut-être interrogez-vous sur votre rapport aux autres.
Oui.
Plus qu'autre chose en fait. Voilà. Voilà. Bon, et bah, du coup, musique.
Et bah,
parce que ça va faire du bien.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place. D'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit des mea culpa à l'appel à marcher entre Raotour et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne. Se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à coup à la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne.
Dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et vous venez d'entendre une artiste que j'adore et qui s'appelle Solane et qui chantait donc le titre Rome, et je vous invite, elle a sorti 3 titres, elle va sortir un album dans peu de temps, et allez écouter Solane, c'est magnifiquement bien écrit, je sais pas comment dire ça, c'est très engagé comme vous avez pu l'entendre, et puis bah, vraiment elle fait du bien dans le paysage je trouve musical actuel, parce que bah, elle mélange plein de styles, elle voilà, et j'aime beaucoup cette artiste. Et il y a un an et 3 mois, je vous disais que Zao de Sagazan exploserait. Moi, je vous prends le pari que Solane, d'ici peu, explosera. Et je lui souhaite sincèrement. Voilà.
Le mec, c'est Laurent Boyer, découvreur de graines de star. C'est ça.
Non, mais
l'homme s'y rêve de Yeuf.
C'est surtout, je trouve qu'il faut appuyer les artistes qu'on aime.
Oui, oui.
Et c'est important. Et moi, je dis vraiment, Solane, c'est vraiment très bien.
C'est pas moi qui vais te dire le contraire.
Ah, c'est Altarba.
Par exemple. Alors, eh ben on va quand même, avant de se quitter, on va faire quelques rappels quand même, qu'on ne fait plus au début, évidemment. Donc, si vous voulez réagir, si vous laissez des commentaires, etc., etc., tout ça, ça se passe sur le blog de l'émission. N'hésitez surtout pas, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, dans votre petit moteur de recherche, vous tapez blog, Radio Canu, la causerie, et normalement, tu devrais tomber sur eux, nous.
Bah, voilà. Normalement, oui. Hein.
Oui, normalement. Sinon, il y a évidemment aussi, évidemment non, mais on est aussi sur Face de Plouc pour les plus vieux, hein, parce qu'on a bien compris que c'est pas les jeunes qui sont sur Facebook.
C'est clair.
Voilà. La conquête du monde et de l'univers prendra un peu plus de temps, excusez-nous, mais tant qu'on se mette à jour, quoi. Donc sur Face de Plouc, pareil, en fait, on fait que poster le podcast. Donc encore une fois, on invite vraiment, si vous avez envie de donner votre avis, mais ne serait-ce que un j'adore ce que vous faites.
Moi, j'aime pas.
Moi, j'aime pas. Oui, mais là, c'était pour me faire du bien. à mon petit ego. Eh ben, vous avez le droit de venir, évidemment, sur le blog. C'est vraiment plus cool. Et personne n'utilisera vos données pour quoi que ce soit. Donc, vraiment.
C'est juste un pseudo, même un faux mail. On vous dira rien et vous pouvez là.
C'est exactement ça. Et évidemment, vous retrouvez aussi des podcasts sur différentes plateformes.
Normalement,
etc.
Quasi toutes les plateformes de podcasts. Vous tapez la causerie Canu. Par contre, il faut bien taper la causerie Canu, parce qu'il y a plein de gens qui ont appelé leurs émissions La Causerie. Ben, c'est pas nous.
On aurait dû poser ça avec l'INP, je sais plus quoi là.
L'INPI
Ouais, c'est ça. Alors que nous-mêmes, on l'a volé à des anards du siècle passé.
C'est vrai.
Bref. Et sinon aussi, si vous êtes une asso, un artiste, ou autre, n'hésitez pas. Si vous avez envie de donner un témoignage, comme on a pu déjà le faire dans La Causerie, n'hésitez pas. Vous nous contactez par mail. C'est à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là.
Ouais, dans le mois qui vient, on devrait parler révolution et contre-révolution. Vous allez voir, on vous prépare
en BD.
Quelques trucs bien sympathiques.
Et puis d'autres choses, espérons à venir au gré de cette nouvelle année qui débute. Et ben voilà, nous on a terminé. Non,
je voulais juste te dire, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations qui sont. Alors, bien sûr, évidemment, les manifestations pour appeler un cessez-le-feu à Gaza. Et ça, évidemment, voilà, mais ça, elles sont suffisamment médiatisées. Mais il y en a d'autres qui sont peu médiatisées en ce moment, c'est celles qui concernent la lutte contre les lois Darmanin, ou loi immigration, même si j'ai vu qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il y a eu quand même une médiatisation plutôt cool. Mais voilà. Mais en tout cas, sachez que normalement, elles doivent se tenir tous les dimanches ou un dimanche sur deux. Donc, n'hésitez pas. Voilà, l'idée, c'est de faire tomber cette loi dégueulasse qui a été votée. Loi qui reprend des thèmes chers au Rassemblement National, au Front National et à l'extrême droite. Et quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment plus vraiment à attendre que le fascisme arrive. C'est qu'il est déjà présent.
On lui déroule le tapis.
Voilà. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à participer, voilà, ou à vous renseigner en tout cas.
Oui.
Pour aller sur rebellion.info et d'autres.
Discuter autour de vous, tout ça, pour peut-être sortir aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, quoi. C'est qu'il y a quand même aussi une vraie partie de la population qui va soutenir ça.
Oui,
et
tout à fait.
Ça, il faut vraiment qu'on sorte de tous ces préjugés, de toutes ces croyances, de tous ces présupposés sur les personnes qui viennent d'ailleurs, en fait. Hein, comme si elles avaient pour ambition de voler les aides des Français. Alors qu'on sait bien que les plus gros voleurs se trouvent dans les palais, dans les usines qui sont au gouvernement.
Quand on ira récupérer un tout petit peu des 800 milliards qui sont mis de côté chaque année dans les paradis fiscaux, je prendrai au sérieux qu'on ait peur que des gens viennent voler 525 euros de RSA
c'est
par mois.
Exactement.
Allez, chiche.
Allez. Et bien voilà, donc nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain. On reprend notre petit rythme de toutes les semaines.
Et oui.
On va se quitter en musique et c'est Clara, si je ne m'abuse, qui a choisi cette dernière musique.
Parce qu'elle veut faire tomber le Capitole.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
T'es une Trumpiste ?
Mais non.
Pardon, il fallait se remettre dans la
configuration. Dans Hunger Games.
C'est une musique du film Hunger Games et dans Hunger Games, le Capitole c'est les fascistes.
Ok, non, mais vous voyez, c'est juste, voilà, pour resituer le truc, parce que là, d'un coup...
Comme ça, ça fait bizarre.
j'ai eu hyper peur.
Parce que nous, on avait la référence, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, vas-y.
Oui, donc on se quitte avec le titre de Lord, qui s'appelle Yellow Flicker Beat.
Mais yes. Ça fait un plaisir de réentendre sa voix, que j'aime beaucoup.
Bah ouais.
De Lord.
Okay.
Ah non, la tienne, ça va. Je laisse les auditeurs et auditrices qui dirent qu'ils adorent ta voix. Moi, je parlais de Lord.
Okay. Et c'est une...
Elle a un dégo, la meuf.
Non, mais là, elle est contente. Elle a cru que tu parlais d'elle.
Oui, c'est pas, ça. Ouais. Calme-toi, Clara.
Mais en tout cas, c'est une chanson à double sens et qui est très bien écrite et qui, justement, appelle à faire tomber un truc qui commence par C et qui finit par isme.
Le cacalisme.
Donc voilà.
Ah non, le capitalisme. Ok.
Voilà.
Bon, allez, on arrête les conneries. Tu peux rappeler, c'est Lord avec le titre
Yellow Flicker Beat.
Yes. Et rendez-vous donc dimanche prochain, 22-23, sur l'antenne de Radio Canu. Portez-vous bien.
Des bisous. Bisous. À la semaine prochaine.
Ciao.
Ah, ça veut pas.
Cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the rubies, precious stones. It keeps my veins hot, the fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope, I tie it and untie. And now people talk to me, but nothing ever hits. So people talk to me, and all the voices just